Santé.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette avec vous, avec grand plaisir. Pour la prochaine heure, vous écoutez l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Aujourd'hui à l'émission, on découvre le projet Le quartier des générations. C'est une initiative de la Fondation Berthiaume du Tremblay, un projet qui vise à favoriser le vieillissement actif des personnes aînées. Et ce, on en discutera avec Chantal Bernatché. Elle est directrice générale de ce très beau projet. Vous allez pouvoir le découvrir. Aussi, j'ai le plaisir de discuter avec Jean-Marie Lapointe, porte-parole du 34e défi sportif Altergo. Ça aura lieu du 24 au 30 avril. Et c'était aussi une occasion pour nous de souligner l'engagement bénévole de Jean-Marie, lui qui s'est vu remettre le 1er mars dernier la médaille du souverain pour les bénévoles par le gouverneur général du Canada. Évidemment, on ne pouvait pas laisser ça sous silence. Aussi, c'est la chronique du docteur Langis Michaud, lui qui est optométriste, également professeur titulaire à l'école d'optométrie de l'Université de Montréal et président de l'Ordre des optométristes du Québec. Avec lui, on parlera de la santé visuelle des conducteurs qui, selon Dr Michaud, devrait être davantage au cœur de la sécurité routière. Vous allez voir, il a beaucoup à dire sur le sujet, Langis Michaud. Et finalement, Marie-France Lalancette, nutritionniste et auteure, nous présente son tout nouveau livre « Alimentation et autisme, relever le défi une bouchée à la fois ». C'est édité chez Le Dauphin Blanc, mais tout juste avant la chronique de Christiane Campagna. J'ai dit chronique, Christiane, mais c'est plutôt revue de presse.
Oui.
Et on débute avec cet article de Santé Canada qui veut ou souhaite réduire le plomb dans les écoles et les garderies.
Voilà, l'Agence fédérale propose de diminuer les concentrations de plomb dans l'eau potable et d'accentuer la surveillance de ce métal, particulièrement dans les robinets des écoles et des garderies. Ils proposent de réduire de moitié la concentration maximale de plomb dans l'eau potable, ce qui la ferait passer de 10 à 5 microgrammes par litre. Et il s'agirait d'un des plus bas niveaux à l'échelle internationale. Elle propose aussi de vérifier la teneur totale en plomb dans l'eau des écoles et des garderies au moins une fois par année. Les provinces pourraient donc être appelées à inspecter toutes les fontaines d'eau potable et tous les robinets d'eau froide utilisés pour la consommation ou la préparation d'aliments dans les écoles et les garderies. Il y a la chercheuse Evelyne Doré de l'École polytechnique de Montréal qui a analysé l'eau qui provenait de 71 robinets et de fontaines dans 7 écoles du Québec. Et les résultats montrent qu'après 5 minutes d'écoulement, l'eau est conforme à la concentration maximale acceptable en vigueur. Mais évidemment, les gens n'attendent pas 5 minutes avant de prendre
Surtout
pas les petits. Donc, la moitié des échantillons recueillis dès l'ouverture du robinet ou de la fontaine dépassait la recommandation de 10 microgrammes, donc même pas le 5, le 10, recommandé actuellement par Santé Canada. Et c'est vraiment un problème de matériaux. Si on changeait toutes nos fontaines, les robinets, qu'on changeait les réseaux de distribution dans les écoles, évidemment, une autre chose à changer dans nos écoles qui pourrissent sur place, on éliminerait une bonne partie du problème. Et ce qui arrive, c'est qu'on note que les enfants dans les écoles et les garderies boivent de plus en plus d'eau parce qu'on les encourage à ne plus consommer de boissons sucrées. On les encourage à ne plus apporter d'eau embouteillée. Alors,
à s'hydrater, j'imagine.
Voilà, donc c'est un lieu où on en consomme de plus en plus. Et c'est ce qui fait que, évidemment, c'est une recommandation de Santé Canada, mais qui aura des répercussions sur les provinces de qui relève l'éducation.
Et si je ne me trompe pas, dans cet article, on soulignait aussi que les enfants sont plus sensibles aux conséquences du plomb dans leur système.
Oui, ça affecte le développement du cerveau et ça peut entraîner une baisse du quotient intellectuel.
Donc, il faut y voir. Maintenant, suite aux très gros incendies à Fort McMurray, on a analysé la santé mentale des pompiers, également leur capacité respiratoire. Qu'est-ce qu'on a pu découvrir, Christiane?
Un pompier sur 5 qui a combattu ce gigantesque incendie a des problèmes respiratoires et dans certains cas des problèmes de santé mentale. C'est ce que montre une étude de l'Université de l'Alberta. Les résultats préliminaires indiquent qu'un pompier sur 5 dit avoir des problèmes respiratoires chroniques comme de la toux, de l'essoufflement, une respiration sifflante ou de l'oppression thoracique. Et pour beaucoup, on pense que ces problèmes de respiration pourraient être temporaires. Peut-être qu'avec le temps, ça va s'améliorer, mais pas pour tous, a dit l'épidémiologiste Nicolas Sherry, qui est la chercheuse principale de l'étude. L'étude a aussi montré que les pompiers de Fort McMurray avaient plus de symptômes physiques et plus d'anxiété et de dépression que les autres. Donc, des choses qui relèvent peut-être plus du syndrome de choc post-traumatique.
Maintenant, un article qui pourrait intéresser les parents qui nous écoutent, camoufler ou pas les fruits et les légumes dans les repas de nos enfants.
Voilà, c'est un article de Marie Allard dans La Presse qui est un peu un petit côté de débat. Donc, devrait-on camoufler des légumes dans les aliments quand les enfants sont difficiles? Il y a deux blogueuses qui disent le faire parce que soudainement, leurs enfants se sont mis à ne plus aimer une certaine quantité d'aliments. Il y a d'ailleurs Marie-Noëlle Marino qui dit qu'elle est une adepte de camouflage, comme l'appelle Marie-Ala, pour bien nourrir son fils de 5 ans. Elle dit « Nous avons essayé plusieurs choses avant d'en arriver là, mais le faire goûter, tout ça, mais il en avait des hauts le cœur, alors elle s'est résignée après avoir consulté une infirmière à camoufler des aliments. » Par contre, il y a Mélanie Magnan qui est nutritionniste, qui est fondatrice de Nutrimini, c'est joli hein, comme nom. Son fils aussi, à 3 ans, s'est mis à ne plus aimer plein de légumes, tout ça, mais elle n'a pas voulu faire ça. Elle trouve que ça peut briser le lien de confiance avec les enfants. Elle-même a vécu quelque chose semblable à ça avec ses parents. Donc, elle continue à en resservir sous différentes formes, mais ne recommande pas de les camoufler. On dit aussi qu'il y a quand même des limites à ce qu'on peut camoufler. On va servir ainsi d'une demi à une portion de légumes par jour aux enfants en mettant un peu de purée de légumes dans les grilled cheese. Il n'y a pas de miracles nutritionnels qui vont se faire là. Et qu'il faut exposer les enfants aux aliments dans leur forme entière, sinon ils vont toujours ne manger que des pâtes et des boulettes. Mais par contre, elle dit, il n'y a pas de mal à bonifier une recette qui, au départ, n'a pas de légumes, mettre des légumes dans les muffins ou les biscuits pour leur ajouter une valeur nutritive. Il n'y a pas de mal là. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas un jeu de ruse pour faire manger des légumes aux enfants sans qu'ils ne le sachent.
Oui. Il faut plutôt avoir l'objectif de bonifier plutôt que de camoufler. On pourrait partir de ça.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, oui, en mettre pour ajouter de la valeur nutritive, mais pas pour tromper les enfants.
Et dernier article de cette revue de presse, la SAAQ lance une campagne de sensibilisation sur le cannabis au volant qui se trouvera sur des plateformes très intéressantes et peut-être différentes.
Mais c'est que cette campagne s'adresse aux conducteurs, c'est dans le Devoir, mais en fait, c'est la presse canadienne, s'adresse aux conducteurs âgés de 18 à 44 ans. Et particulièrement, on veut toucher les 18 à 24 ans. Alors, pour cette campagne qui va durer jusqu'au 14 mai, il y aura des annonces publicitaires à la télé, mais aussi des vidéos sur différentes plateformes comme Facebook, YouTube et Spotify. Mm-hmm. Donc, on voit qu'il y a de nouvelles plateformes qui s'ouvrent quand on veut aller toucher certains publics. Et on rappelle donc que plusieurs études indiquent que la consommation de drogue affecte les fonctions cognitives et motrices nécessaires à la conduite d'un véhicule. Et que c'est comme pour l'alcool, c'est une infraction criminelle. Des sanctions peuvent inclure une amende, la perte du permis de conduire ou même l'emprisonnement.
Et évidemment, avec la légalisation de la marijuana, on devrait être d'autant plus attentif à ça.
Voilà, c'est probablement pas une coïncidence si cette campagne-là sort à ce moment-ci.
Voilà, Christiane Campagna, merci beaucoup pour cette revue de presse. Les personnes qui vivent avec l'autisme sont parfois confrontées à de nombreux défis, dont des défis, disons, alimentaires. J'en parle à l'instant avec Marie-France Lalancette. Elle est nutritionniste et auteure de ce nouveau livre « Alimentation et autisme, relever le défi, une bouchée à la fois » publié chez Le Dauphin Blanc. Marie-France, bonjour.
Bonjour.
Problème alimentaire, bon, je trouve que c'est un peu péjoratif d'entrée de jeu. Comment on pourrait peut-être mieux cibler ce genre de soucis ou de préoccupations alimentaires chez les enfants autistes?
En fait, problème alimentaire, on sait que c'est 5 fois plus de risque de troubles de l'alimentation, si on peut dire, chez les enfants autistes. Si vous me dites problème alimentaire, ça met tout un paquet de choses là-dedans, là, effectivement. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a plus souvent de la rigidité alimentaire à cause d'une problématique souvent de l'ordre de l'intégration sensorielle, des troubles gastro-intestinaux plus fréquents aussi. Donc, quand on mange moins varié et qu'on a un peu plus mal au ventre, il y a plus de chances qu'on ait certaines carences nutritionnelles. Les autistes sont aussi plus sujets à avoir des rituels alimentaires, des choses et des difficultés avec l'aspect social du repas.
Mm-hmm. Est-ce que l'on sait, Marie-France, pourquoi les enfants ou les personnes autistes sont plus confrontés à ce genre de problème-là?
Ça va avec l'autisme d'avoir plus de défis au niveau de l'intégration des sens. Ils voient les choses différemment, donc leur assiette, ils la voient différemment aussi. Il y a des différences physiques aussi au niveau de l'autisme qu'on voit ressortir de plus en plus. On sait que plus souvent chez les autistes, il y a une flore intestinale différente, mm-hmm. donc des capacités d'absorption différentes aussi au niveau de certains nutriments qui seraient comme clés là, et qui rentreraient en compte dans la composante inflammatoire. Alors, on commence à en apprendre des choses qui fait que finalement, c'est pas juste dans la tête, c'est aussi dans le corps là, qu'il y a des choses différentes.
Oui. Évidemment, ça a des conséquences sur la santé globale de l'enfant autiste. Par exemple, on pourrait penser à un manque de vitamines. Il faut y voir, j'imagine, Marie-France.
C'est pas tant l'autisme et sa façon de manger rigide qui porte aux carences, parce que la majorité des enfants autistes, quand on les suit, on les écoute ou qu'on les laisse aller dans ce qu'ils vont, ils n'ont pas de carences nécessairement très graves. C'est que là, quand on commence à jouer au yo-yo avec des diètes vraiment spéciales, mm-hmm. que là, on complique les choses et il y a peut-être certains ajustements qu'il faut faire effectivement pour un enfant autiste avec une évaluation nutritionnelle parce qu'il mange certains groupes un peu moins que d'autres. Mais c'est quand on parle de diète stricte là, qu'on voit de plus en plus des carences qui nous inquiètent en tant que professionnels parce que des fois, on enlève toutes les sources de glucides, ça veut dire qu'il n'y a plus de carburant pour le cerveau, ça veut dire des choses aussi qui l'incluent sur le plan de l'intégration sociale. Alors, c'est pas du tout ça qu'on veut pour un autiste.
Ouais. Et d'ailleurs, bon, dans ce livre « Alimentation et autisme », vous encouragez les parents à consulter un professionnel de la santé, à ne pas se lancer dans des changements drastiques sans consulter et aussi à éviter peut-être les pièges que l'on a entendus souvent dans les dernières années, c'est-à-dire éliminer complètement des groupes alimentaires, le gluten, la caséine, on en a entendu parler de ça aussi.
Oui, effectivement, certains enfants bénéficient de certaines exclusions parce que les intolérances ou allergies sont fréquentes dans la population, sont pas si fréquentes que ça, mais quand un enfant autiste en souffre, il va être moins sujet à le verbaliser. Alors, lui aussi a le droit au même traitement. Donc, il faut faire attention, il faut soulager les enfants. Et il y a aussi des impacts de l'alimentation. Quand c'est optimal, on se développe de façon optimale. Donc, il y a des modifications de diète qu'on peut faire qui peuvent aider les enfants autistes. De la même façon que c'est un adulte ou quelqu'un qui est bien portant ou qui peut améliorer sa qualité de vie par l'alimentation. Mais on ne guérira pas l'autisme comme tel. Et c'est pas tous les enfants qui ont des intolérances. Ils sont pas tous intolérants aux mêmes choses. Et quand ils sont intolérants, ben il y a des niveaux aussi. Puis chaque personne et chaque famille est différente, il y a des coûts et des bénéfices à ça. Des fois, il faut vraiment peser le pour et le contre et pas s'engager sans effectivement consulter une nutritionniste en pédiatrie qui peut très bien vous orienter à ce niveau-là.
Ouais. Quand le parent a envie de s'engager dans une diète où il va éliminer un aliment ou un groupe alimentaire, vous recommandez de faire des tableaux, de vraiment noter au quotidien l'alimentation de son enfant.
Oui, c'est ça, c'est que c'est difficile à objectiver. Souvent, les parents ont une perception que leur enfant mange rien. On se rend compte quand on écrit qu'il mange pas mal d'affaires, qu'il y a moyen de faire des choses avec ça. Mais aussi, quand on fait une démarche d'observation avec le parent, quand on est un professionnel et qu'on fait cette démarche-là avec le parent, c'est sûr que c'est lui qui a la meilleure source d'information. C'est l'enfant qui nous dit quel est son profil sensoriel, finalement, quel est son défi alimentaire au niveau sensoriel, à partir des choses qu'il accepte et qu'il rejette. Alors, c'est vraiment la base de mon approche, en tout cas, de l'approche avec les enfants autistes que je pratique depuis plusieurs années avec des enfants qui ont des défis alimentaires importants sur le plan sensoriel ou oromoteur ou de troubles de comportement. Il faut vraiment y aller avec l'enfant. C'est lui qui nous parle.
Oui. Il y a un principe assez important que vous abordez dans votre livre, c'est la relation positive avec la nourriture. Comment on peut la favoriser en tant que parent pour notre enfant?
Oui, effectivement, l'enfant, en général, tous les enfants, mais un enfant autiste, il y a des choses que lui, auxquelles il tient, et c'est important pour son plaisir à lui que ça se passe de même. Il n'est pas capable d'assumer une aussi grande variété. Alors, quand le niveau de stress monte parce qu'on lui inflige une plus grande variété qu'il n'est pas encore prêt à tolérer, ben c'est ça. C'est là où la relation avec la nourriture devient moins facile, moins il y a une méfiance qui peut s'installer. Alors, on essaie préserver ça. Et plus on va l'accepter finalement dans sa façon d'être et pallier en attendant avec une bonne évaluation nutritionnelle pour qu'il n'y ait pas de carence, plus il va être ouvert à relever ses défis et ça va être sa motivation intrinsèque. Ce ne sera pas nous qui va avoir essayé finalement coûte que coûte de lui imposer un menu. Donc ça va perdurer, ça va être à long terme beaucoup plus payant comme ça. Et en poussant pas le nombre de bouchées minimales, des choses comme ça, ces choses-là, ou en n'essayant pas finalement de lui faire aimer des choses qu'il n'aimera jamais, on réussit à petit à petit à en faire un bon mangeur.
Ouais. Un article publié récemment dans la presse par Marie Allard parle de camoufler ou pas les fruits et les légumes dans les repas de nos enfants. Ce que vous recommandez, c'est d'éviter de le faire avec les enfants autistes. Ben, en fait, peut-être avec tous les enfants, mais notamment avec ceux qui vivent avec l'autisme.
Oui, c'était un très bon article d'ailleurs et c'est une de nos membres qui a contribué et qui avait donné son opinion là-dessus, une des membres du réseau Nutrition Familiale. Je trouvais ça tellement bien dit, effectivement, qu'on a beaucoup misé là-dessus, les camouflages et ces choses-là dans les dernières années et on se rend compte à un moment donné, si ça passe pas, l'enfant, il se met à rejeter tout. Effectivement, ça brime le climat de confiance. Alors moi, je crois qu'on devrait autrement... On devrait pas nécessairement demander à nos enfants d'aimer 26 légumes non plus, d'y aller peut-être un peu plus graduellement. C'est pas l'âge où on apprécie énormément les légumes. On a plein d'autres affaires. Ça vient petit à petit. Puis plus on pousse, on dirait plus on résiste, plus ça persiste.
Ouais. En terminant, Marie-France Lalancette, on parlait tantôt des défis sociaux aussi que l'enfant autiste peut rencontrer, notamment à l'heure du repas. Si pour notre enfant, c'est difficile les repas parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de stimuli, qu'est-ce qu'on peut envisager comme solution?
Bien, écoutez, les professionnels de la santé, les nutritionnistes collaborent avec des ergothérapeutes, des psychologues, des travailleurs sociaux, des choses comme ça. Il y a des moyens qui vont nous aider à installer des routines, des encadrements, des choses qui font des fois que nous, on s'en rend pas compte comment on interagit avec un enfant autiste. C'est pas toujours évident pour nous, mais effectivement, chaque autiste est différent aussi et a ses propres craintes ou défis au niveau sensoriel ou au niveau du social. Alors, faut vraiment y aller avec l'essai-erreur et faire une démarche qui est personnalisée, je dirais. Là. Oui. Je ne vais pas vous donner un moyen qui va faire à tout le monde.
On peut aller sur votre site cliniquenutritionfamilia.wordpress.
Non, pas du tout. Excusez-moi, c'est vraiment passeportnutrition.org.
Ah, mon Dieu!
Clinique Nutrition Familia n'existe plus comme telle parce qu'on a maintenant un organisme communautaire qui s'appelle Réseau Nutrition Familia.
Donc, c'est une ancienne adresse.
C'est vraiment important d'aller dans le bon là, parce qu'il n'existe plus cet ancien site-là.
Est-ce que vous pouvez nous la redire, que je la prenne en note?
Oui, donc c'est www.passeportnutrition.org et vous allez avoir toutes les nutritionnistes du Réseau Nutrition Familia qui sont rejoignables par là et qui publient des articles régulièrement sur des sujets sur l'alimentation, comme moi, entre autres, sur l'autisme, mais plein d'autres sujets aussi. Et vous avez des ressources qui s'en viennent. C'est vraiment nouveau depuis le mois de mars. On a lancé ça pour le mois de nutrition.
Voilà. OK.
Alors, c'est une très belle ressource pour toutes les familles et tous les individus du Québec.
Merci, Marie-France Lalancette.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Bonne journée.
Docteur Michaud, bonjour.
Oui, bonjour, Madame Paquette.
Langiste Michaud, optométriste, professeur titulaire à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal et président de l'Ordre des optométristes du Québec. Aujourd'hui, on parle de la santé visuelle des conducteurs. Et ce que vous aviez vraiment envie de mettre de l'avant d'entrée de jeu, c'est que le premier facteur à considérer en conduite automobile, c'est peut-être la vision. Il faut y voir et peut-être revoir nos paramètres de sécurité.
Tout Tout à fait. Alors, c'est une position qu'on a défendue récemment dans les consultations publiques que le gouvernement a fait pour améliorer le bilan routier. Et en fouillant les données des études qui ont été faites à ce sujet-là, effectivement, on considère que la vision parmi les trois fonctions, donc il y a les habiletés évidemment manuelles, là. Il y a la cognition, évidemment, donc faut avoir l'esprit alerte pour conduire, mais la vision demeure le paramètre le plus important et qui conduit le plus souvent à des accidents quand la vision n'est pas adéquate, effectivement.
Oui. Et quels sont les moyens de resserrer ces paramètres de sécurité?
Ben, c'est d'être préventif. Hein. On est dans la prévention plus que dans le curatif, donc dans le traitement. Alors, il faut s'assurer que les conducteurs aient une bonne vision au départ. C'est-à-dire, on suggère que dès l'émission du premier permis, il y a un examen complet qui soit fait. Les tests qui sont faits en bureau de la Société d'assurance auto identifient très peu de problèmes et souvent on se retrouve avec des cas un peu catastrophes où quelqu'un n'aurait jamais dû conduire un véhicule d'urgence ou un véhicule articulé. Ça fait 20 ans qu'il fait et là, on se rend compte qu'on doit lui retirer son permis, donc c'est pas agréable pour personne. Et après ça, en aval, les examens obligatoires actuellement sont à 75 ans. On dit qu'il faut les ramener minimalement à 65 ans parce qu'évidemment, l'ensemble des pathologies oculaires que les gens connaissent, cataracte, glaucome, etc., affectent les personnes beaucoup plus rapidement qu'à 75 ans. Donc, il est déjà très tard là, pour intervenir si on attend 75 ans.
Oui, surtout avec l'augmentation du diabète, là, du point de vue de la population mondiale, on sait qu'il y a plus de risques de glaucome, par exemple.
Glaucome et diabète sont deux entités qui peuvent être des fois reliées, mais qui sont parfois séparées aussi. Non, le diabète, effectivement, près de 10% de la population. Après 10 ans de diabète, il va y avoir déjà des lésions au fond d'œil de la majorité des gens. Et ce qui est dramatique, c'est que les gens ne s'en aperçoivent pas. Ça fait pas mal.
Ouais.
Il y a des petits vaisseaux qui se développent de façon anormale. Ces vaisseaux-là sont fragiles, vont perdre du liquide, vont perdre du sang, vont faire des petites hémorragies et vont éventuellement entraîner des décollements de rétine ou un impact important sur la vision. Donc, il faut s'en apercevoir à temps pour le traiter à temps, puis évidemment, conserver la meilleure vision possible. Glaucome aussi, c'est sournois. C'est comme l'hypertension artérielle, mais c'est l'hypertension dans l'œil. Donc, ça réduit notre champ de vision, et Dieu sait que c'est important de bien voir partout notre champ de vision quand on conduit, et sans qu'on s'en aperçoive vraiment. Donc, encore là, si on s'aperçoit à temps, on peut contrôler et donner les médicaments qu'il faut pour que la condition soit là. Le but, c'est que les gens restent avec leur permis le plus longtemps possible, avec des bons yeux, et des yeux capables de bien conduire.
Mais en même temps, que répondez-vous, Langis Michaud, lorsque des personnes, notamment plus âgées, vous disent « j'ai peur de perdre mon permis », probablement que parfois, dans certains cas, c'est ce qui retient les gens d'aller passer les examens visuels.
On voit ça beaucoup, dans le sens que les gens, évidemment, ils reçoivent la formule ou déjà, ils ont des problèmes, ils disent « ben là, si je vais consulter, peut-être qu'il va m'enlever mon permis ». Première chose à dire à vos auditeurs, de clarifier, jamais ni un médecin, ni un optométriste, ni un professionnel de la santé peut enlever un permis.
Mm-hmm.
C'est un privilège de conduire et ce privilège-là, il est octroyé par la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, nous, quand on voit des situations problématiques, on doit faire un rapport. On peut dénoncer une situation, on peut informer la société d'une situation, mais ce n'est pas nous qui prenons la décision. Il y a plein de mécanismes, entre autres, des épreuves sur route que les gens peuvent demander pour justifier, parce que c'est beau qu'il y ait une pathologie, mais ils peuvent avoir développé des habiletés compensatrices qui font qu'ils sont très sécuritaires et conduisent très bien. Je ne suis pas avec eux autres dans la voiture, je ne peux pas le savoir. Mais nous, on va travailler avec le patient pour améliorer sa condition. Donc, plus tôt on l'aperçoit, plus tôt on s'en rend compte, plus tôt on a des moyens à notre disposition pour améliorer la condition et maintenir donc le permis le plus longtemps possible. Donc, non seulement c'est une bonne chose de consulter tôt, dès qu'on a des problèmes, mais votre professionnel va vous aider à maintenir votre permis de conduire. Il ne faut pas avoir peur.
Oui. Plus tôt et peut-être plus fréquemment aussi.
Plus fréquemment, parce que de façon générale, chez monsieur, madame, tout le monde, afin de prévenir les problèmes de santé au niveau de l'œil, évidemment, on recommande un examen aux 2 ans pour la personne adulte. Chez les personnes plus âgées, donc au-dessus de 55, 60 ans, on va recommander un examen vraiment annuel, parce qu'encore une fois, il y a à peu près un quart des personnes qui se promènent avec des pathologies au fond d'œil ou pathologies au niveau de la santé oculaire, et qui ne s'en aperçoivent pas. Il n'y a pas de symptômes associés. Et encore une fois, ça nous permet d'intervenir beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement si jamais un examen est fait régulièrement que d'attendre que là, il y a des symptômes et qu'il soit vraiment trop tard pour agir.
Faudrait-il aussi, Longis Michaud, que les tests ou les examens visuels soient faits dès l'obtention du permis de conduire, c'est-à-dire autour de 16 ans?
Oui, tout à fait. C'est une recommandation qu'on a fait aussi. Par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas une bonne vision des couleurs. Mm-hmm. Ben on lui dirait c'est 7% des garçons, hein, c'est 1% des filles. On pourrait dire tout de suite au jeune homme, ben tu peux pas devenir pompier, tu peux pas devenir policier parce que tu n'auras pas le permis de conduire pour aller avec ça. Ça prend une vision des couleurs normale. Alors, on peut déjà orienter les gens avant qu'ils se butent le nez vers quelque chose qui est un avenir pour eux qui devient bloqué. Les camionneurs également, ça prend une vision en trois dimensions. Donc, si jamais il y a eu un œil croche, un œil paresseux qui ne s'est pas développé durant l'enfance, on va l'identifier. Malheureusement, il n'y a rien à faire à ce moment-là très souvent et on ne peut pas redévelopper ce qui ne s'est pas développé. On va simplement dire, écoutez, il y a plein d'autres métiers qui sont probablement intéressants, mais vous ne pouvez pas accéder à ce permis spécial pour conduire. Et sur les camionneurs, il y a aussi des incongruités. Si vous conduisez aux États-Unis comme camionneur, vous avez des requis d'examen aux 5 ans et certains critères à appliquer, alors que si vous conduisez au Québec ou au Canada, ces requis-là tombent. Pourtant, Montréal, Chibougamau, à mon idée, est aussi dangereux à faire en camion que Montréal-Plattsburgh. Là. Ouais. Alors, donc, ça aussi, il faut que ce soit renouvelé. Plus, encore une fois, le message est le même et la logique est la même, c'est que plus on voit les patients relativement souvent, plus on peut prévenir, et plus on peut prévenir, bien, plus on peut traiter et maintenir les habiletés du conducteur.
Ouais. En terminant, Longis Michaud, est-ce que la façon de faire nos examens visuels ici au Québec sont adéquates?
Quand vous consultez un professionnel qui est un optométriste ou un ophtalmologiste, habituellement, c'est fait dans les règles de l'art avec les équipements qu'il faut. Malheureusement, la majorité des formulaires que les gens vont amener à leur médecin, le médecin généraliste, il n'a pas l'équipement dans son bureau pour tester les choses de façon adéquate. C'est souvent des distances qui sont pas... il va avoir une vieille charte de lettres là, sur un mur à une distance qui est plus ou moins calibrée, qu'un éclairage qui est plus ou moins calibré. En cas de problème, évidemment, il va nous référer le patient, mais il y a beaucoup de problèmes qui passent inaperçus à ce moment-là et qui ne sont pas, encore une fois, détectés et traités de façon adéquate. Donc, effectivement, il y a une amélioration là aussi à faire et on encourage donc les gens à consulter leur optométriste ou leur ophtalmologiste le plus rapidement possible.
Bien sûr. Et si en tant que conducteur, on veut vérifier notre santé visuelle, on consulte d'entrée de jeu notre optométriste, c'est la façon d'avoir un examen visuel?
C'est la façon et évidemment, on va souvent demander d'avoir un examen sous dilatation de la pupille. Donc, on met une goutte qui agrandit la pupille. Ça nous permet de voir beaucoup mieux ce qui se passe à l'intérieur de l'œil. Donc, c'est la différence. Si je vois un examen normal, c'est comme si je regardais à travers le trou d'une serrure. Quand je mets la goutte et qu'il dilate la pupille, c'est comme si j'ouvrais la porte au complet. Donc, je peux apprécier beaucoup plus comment la pièce est faite à l'intérieur et quels en sont les détails. Ouais. Et donc, évidemment, oui, on va recommander cet examen-là là, minimalement aux 2 ans. Il faut amener un chauffeur avec nous, par exemple, parce qu'on ne peut pas conduire une fois qu'on est dilaté.
Par la suite. Longis Michaud, vous êtes optométriste, président de l'Ordre des optométristes du Québec. Merci beaucoup, toujours un plaisir.
Madame Paquet, ça fait un plaisir encore. Merci, au revoir.
Au revoir. On se retrouve après la pause.
Vous avez adopté de nouvelles...
Deuxième partie de cette émission, c'est bon pour la santé. Vous êtes toujours sur Canal M, Marianne Paquette avec vous. Je vous rappelle ce qui s'en vient pour cette deuxième partie de l'émission. On parlera avec Chantal Bernatchez, la directrice générale de la résidence Berthiaume du Tremblay du quartier des Générations. On parlera d'ailleurs de ce projet, le quartier des Générations, une initiative de la fondation Berthiaume du Tremblay qui vise à favoriser le vieillissement actif des personnes aînées. C'est un projet fort intéressant et assez innovateur, vous pourrez l'entendre. Mais pour le moment, il est au bout du fil, il nous entend. Allô Jean-Marie Lapointe.
Allô Marianne.
Comment vas-tu?
En pleine forme.
Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Je sais que tu es très, très occupée. On voulait se donner la chance de parler ensemble de cette 34e édition du Défi sportif qui débute lundi prochain, 24 avril, mais aussi te féliciter pour cette médaille du souverain pour les bénévoles que tu as reçue par le gouverneur général du Canada le 1er mars dernier. Bravo pour ça, Jean-Marie. Comment tu as reçu cet honneur-là?
Ben avec un immense sourire et une grande surprise parce que je ne l'attendais pas. Puis J'avais beau faire le tour de mes causes avec lesquelles je suis impliqué depuis des années, parce que c'est une médaille que tu reçois suite à une mise en candidature de quelqu'un de ton entourage, de ton groupe de travail ou des causes avec lesquelles tu es impliqué. Puis moi, j'ai fait le tour de toutes les causes et il n'y en a pas une qui m'a dit que c'était elle. Donc, je suis encore dans la recherche du coupable. Et puis, j'ai toujours pas trouvé, mais ça a été une belle journée, très belle en émotion aussi, puisque mon père était là, mes soeurs étaient là. Il y avait une des personnes, Annie, qui travaille auprès des ados en thérapie, qui était là. D'ailleurs, je pense que c'est le grand chemin qui est derrière tout ça. Mais bref, personne ne m'a convaincu de ses alibis et tout ça. Puis bref, en tout cas, j'ai accepté la médaille avec le sourire, avec beaucoup d'émotion. Puis c'est surtout une reconnaissance, oui, à la fois personnelle, mais c'est que le message qu'on envoie au Canada d'un océan à l'autre, c'est que le bénévolat, il a une valeur, il a une part importante dans notre pays, dans notre culture, dans nos valeurs. Et voici une façon de reconnaître ce que vous faites. On vous donne une médaille et c'est le gouverneur général qui, en main propre, te la donne. Donc, ça a un protocole, c'est pas pompeux, mais c'est un beau protocole qui est simple, qui est sobre et qui fait que c'est une belle célébration. Et je le prends avec un beau sourire. Puis je sais que le défi sportif Altergo est en grande partie responsable de ma démarche de donner de mon temps, d'être impliqué, puis ça fait déjà maintenant 16 ans que je suis impliqué comme porte-parole au défi sportif, puis que ça a changé tellement d'aspects, non seulement de ma vie, mais de ma perception de l'être humain. Et que finalement, tu as beau avoir une limitation intellectuelle, physique, fonctionnelle, peu importe, tu n'es pas un sous-humain, tu es un humain à part entière, et que c'est des gens qui doivent démontrer au quotidien une force d'adaptation pour justement continuer à vivre au quotidien avec une limitation. Alors moi, de côtoyer ces gens-là, ça remplit mon cœur, mais ça me donne beaucoup d'espoir en l'humain, malgré l'adversité.
Jean-Marie, pourquoi tu as choisi, il y a 16 ans, le défi sportif Altergo comme engagement bénévole?
Bien, tu sais, c'est le plus grand événement multisport qui revient à chaque année au Canada. Mais j'étais loin de me douter que c'était un aussi gros événement. Moi, on m'a approché pour que je sois un des co-porte-parole. Puis à l'époque, ben, il y avait déjà Chantal Petitclat, il y avait Jean-Pierre Coilier, il y avait Debra Harbeck. Puis tout juste avant, ben, on avait Yvon Deschamps. Je me disais, quelle belle brochette de porte-parole. Et qu'on me demande, moi, mais je le prends comme un honneur. Mais j'étais loin de me douter que ma vie allait être autant coloré, brassé positivement par ces gens-là. Et j'ai accepté parce que j'aime, quand on me lance un défi, de voir en quoi, moi, je peux peut-être apporter quelque chose. Mais, tu sais, le bénévolat, ce qu'il y a de plus payant dans tout ça, parce qu'on dit souvent que le bénévolat, c'est pas payant, mais c'est enrichissant. Oui. Mais en quoi c'est enrichissant? C'est que c'est tout ce que tu reçois par rapport à ce que tu donnes. Et quand, comme investisseur, tu mets de l'argent à la bourse et tu reçois trois fois ton montant investi, tu dis, j'ai fait une bonne affaire. Bien, c'est à peu près la même chose avec le bénévolat que j'ai au défi sportif. Les heures que j'y investis, j'ai l'impression de recevoir trois fois plus, quatre fois plus, dix fois plus que ce que ça me coûte en termes d'heures ou de disponibilité. Ça veut dire que ce que je reçois quand je suis sur place, c'est immense en termes de qualité, en termes de relations, des qualités humaines, en termes de valeurs morales, spirituelles, en termes aussi d'énergie, parce qu'effectivement, c'est énergisant. C'est pas énergivore, c'est énergisant de faire du bénévolat au défi sportif. La preuve, il y a des centaines de bénévoles qui bloquent de leur temps de vacances annuelles pour venir bénévoler au défi sportif. Donc, quand tu entends ça, tu te dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a au défi sportif qui fait en sorte que au lieu d'aller à Cuba une semaine, tout inclus, les gens vont au défi. Bien, je l'ai découvert. Pourquoi? Et moi aussi, depuis ma première année au défi, c'est ce que je fais maintenant. Je réserve ma semaine pour y être.
Je l'ai dit beaucoup, moi, à mon entourage. C'est un des plus bels événements de Montréal, le défi sportif Altergo, et encore plutôt méconnu du grand public, Jean-Marie.
C'est hallucinant, hein? Tu sais, quand tu te dis que c'est le plus gros événement multisport annuel au Canada. Tu sais, là, de tout ce qui se passe en termes de sport, il n'y a rien de plus gros au défi sportif. Puis quand tu regardes les statistiques, on a plus de 6700 athlètes handicapés qui vont venir. T'sais. Puis de ce nombre-là, quasiment 6000 jeunes, plus précisément 5900 jeunes des écoles du Québec, là, des écoles, des centres de réadaptation partout au Québec qui viennent. Donc, tu te dis, comment ça se fait que les gens connaissent pas ça? Bien, il y a encore des gens dans le milieu du monde handicapé ou de la réadaptation qui découvrent le défi à chaque année. Parce que forcément, il y a des gens qui viennent d'être engagés, ils ont 22 ans, 23 ans, c'est des jeunes travailleurs, puis là, ils viennent d'apprendre qu'il y a quelque chose qui se passe comme ça. C'est quoi cette bébête-là, le défi sportif Altergo? Il y a encore des gens qui découvrent ça. Malgré que ça fait 34 ans. Ben, écoutez, c'est la beauté du sport, c'est la beauté du défi, c'est qu'il y a du renouvellement, puis il y a des gens qui découvrent ça. Par contre, une fois que tu as découvert le défi, c'est clair que tu sais que ça existe et c'est clair que tu y retournes, que ce soit comme bénévole, comme athlète, comme parent, comme supporter, comme employé. Donc, moi, je me dis, ça me dérange pas qu'il y ait encore des gens qui le découvrent. Il faut juste les amener, parce qu'une fois qu'ils l'ont découvert, ils sont faits, ils vont revenir.
Jean-Marie, au cours de ces 16 années, est-ce qu'il y a des rencontres particulièrement marquantes que tu as pu faire dans le cadre du défi sportif?
Ça serait injuste pour tous ceux que je n'ai pas le temps de nommer. Par contre, je le sais qu'il y a eu, à chaque année, il y a eu des moments « wow », des moments où « mais mon Dieu, je n'avais pas vu ça ». J'avais pas vu que tel type de déficience pouvait faire telle affaire. J'avais pas vu aussi telle adversité qu'un jeune devait avoir dans sa vie. Il y a des histoires crève-cœur. Il y a des parents qui ne viennent pas voir leurs enfants pour toutes sortes de raisons. Une chance que les parents, pas les parents, mais une chance que les professeurs, une chance qu'il y a des supporters, une chance qu'il y a des bénévoles qui viennent compenser. Il y a des parents qui ont peut-être pas l'occasion aussi de se déplacer parce qu'il y a pas juste des raisons. Il y a des raisons d'horaire, il y a des raisons aussi d'incompatibilité avec leur mode de vie, mais je le sais que combien de parents se déplacent pour aller voir leur fils jouer au hockey, leur fille faire, du curling, la danse, quoi que ce soit, mais ces jeunes-là qui n'ont pas leurs parents, nous, là, on devient leur famille, on devient des frères, on devient des personnes qui sont là pour les encadrer, mais il y a des histoires qui m'ont apprise, en tout cas, il y a des gens qui m'ont appris à me libérer de mes préjugés, de mes peurs, de mes malaises. Combien de fois, moi, j'étais devant une personne qui avait un lourd handicap, par exemple, une paralysie cérébrale, c'est plutôt sérieuse, où la personne s'exprimait non seulement avec une immense difficulté, mais il devait avoir un tableau puis pointer avec une espèce de marqueur accroché sur son menton ou sur son front pour pouvoir pointer telle chose. Je réalisais que j'étais souvent mal à l'aise au début. J'avais des sueurs froides. Je me sentais mal. J'avais l'impression que le gars avait des millions de spasmes qui se forçaient pour essayer de me communiquer. Puis finalement, c'était pas lui qui avait un malaise. C'était moi qui avais un malaise. Donc, une fois que ce malaise-là fond comme neige au soleil, tu réalises qu'il y a une rencontre, il y a une relation. Il y a un contact, il y a une connexion. Et on existe par nos liens, tout être humain, qu'on ait un handicap ou pas. Donc, c'est des leçons, des apprentissages que je n'arrête pas de faire, même après 15 ans de bénévolat. Donc, je me dis, il faut être patient avec ceux et celles qui ont peut-être une hésitation, que le handicap leur fait peur, les met mal à l'aise. Bien, il faut être patient parce que je suis passé par là, donc je les comprends. Par contre, je l'ai dit tantôt, Marianne, puis je le répète, une fois que tu as mis ton doigt dans l'engrenage du défi sportif Altergo, tu es faite, tu vas y revenir et tu vas en plus amener du monde avec toi.
Qui s'y frotte, s'y pique au défi sportif Altergo? En plus, bon, c'est du 24 au 30 avril, on le disait, tu en es un magnifique porte-parole, Jean-Marie Lapointe. Et en plus de cet événement, c'est aussi la semaine de l'action bénévole du 23 au 29 avril. Je pense que la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment un message à l'engagement bénévole pour toutes les personnes qui nous écoutent au Québec et qui cherchent à investir de leur temps et de leur personne.
Étrangement, cette année, on m'a proposé d'être aussi porte-parole du regroupement de l'action bénévole, du RABQ. Puis tu vois, en faisant ça, c'est drôle, on vient même à reconnaître mon engagement dans le bénévolat et que ça tombe dans la même semaine. T'sais, on parle que c'est les mêmes dates. Donc, il y a une belle synchronicité dans tout ça. Puis, effectivement, tu sais, de célébrer le bénévolat au défi sportif, comme toute autre organisation, c'est une façon aussi de se décentrer de son nombril puis de regarder ce qui se fait ailleurs. Et qu'est-ce qui se fait ailleurs? Ben, en tout cas, je sais qu'au défi sportif cette année, là, il y a plein d'affaires, il y a plein de compétitions, il y a plein d'athlètes de tous les types de déficiences, comme je nommais tantôt. On a aussi plusieurs pays, on parle d'une dizaine de pays, les provinces canadiennes, les 10 provinces sont représentées aussi au défi. Donc, on a un événement de très, très, très grande envergure, mais on a aussi des petits jeunes. T'sais, on a la relève qui va côtoyer l'élite. C'est rare qu'on trouve ça. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que ces petits jeunes-là voient les grands performer à un niveau où c'est des jeunes qui sont passés par le défi et qui sont devenus des athlètes paralympiques.
Ouais.
Donc, ces petits jeunes-là de l'école les voient, ça donne de l'espoir, ça donne des objectifs. Et d'être témoin de tout ça, on est enrichi. Donc, effectivement, tu parles de la semaine de l'action bénévole. Bien, je pense qu'au moment où on se parle, il y a beaucoup plus de gestes de bonté, de générosité que malgré ce que les nouvelles ou l'actualité peut nous apporter. C'est vrai qu'il y a des affaires tristes dans le monde, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de gestes positifs et de bonté, mais qui passent dans le beurre parce que la caméra n'est pas là. Mm-hmm. C'est bien plus facile de tourner un épisode de violence ou une explosion ou de la pauvreté dans le monde. Puis effectivement, il y en a, mais je vous le dis, le bénévolat, on en est témoin de beaux gestes de générosité. Puis le défi, bien, premièrement, tu peux y aller comme bénévole, tu peux y aller aussi comme spectateur, et en plus, c'est gratuit.
Ouais.
C'est gratuit, le défi sportif. On charge absolument rien pour permettre aux gens de découvrir c'est quoi. Puis en plus, tu peux même l'essayer. Il y a une zone pour tester les sports. Puis c'est là que tu réalises que finalement, tu sais, Norman, c'est pas... tu sais, jouer au basket, là, excuse-moi, mais le filet est à la même hauteur. C'est juste que toi, t'es plus bas. Puis en plus, t'es dans un fauteuil. Puis tu dois dribbler le ballon, puis tu dois faire des passes. Je m'excuse, mais c'est pas facile de maîtriser un fauteuil roulant, tu sais. Alors bref, je te parle de ça, mais en même temps, tu sais, le défi sportif, vous pouvez avoir déjà un petit aperçu en allant voir sur le site internet défisportif.com. C'est une façon aussi facile de tout te répéter, mais en donnant ledéfisportif.com comme site internet, puis ça va te donner quand même une bonne idée de ce qui attend cette semaine-là.
Ouais. Et une façon de recharger sa batterie et de s'emplir de beauté, de fierté aussi, Jean-Marie Lapointe. J'y serai lundi. Ce sera un plaisir de te croiser, mon cher Jean-Marie Lapointe.
Bon.
Et je te remercie. Très bonne semaine de l'Action bénévole à toi. Et bien sûr, une très belle 34e édition du Défi sportif Altergo.
Ben, c'est un amour, Marianne. On se voit lundi prochain en forme et en feu, comme les milliers de jeunes qui vont être là aussi.
À lundi. Bye.
Bye-bye.
Favoriser le vieillissement actif des personnes aînées, c'est l'objectif de Chantal Bernatché par ce très beau projet. Vous l'entendrez, plutôt innovateur, le quartier des générations. Chantal Bernatché, bonjour.
Bonjour, Madame Paquette.
Vous êtes directrice de ce projet, le quartier des générations, et également de la résidence Berthiaume du Tremblay. C'est quoi ce grand projet-là que vous mettez de l'avant depuis quelques temps?
En fait, le projet du quartier des générations, c'est une initiative de la Fondation Berthiaume du Tremblay. C'est un projet novateur, un modèle de service à échelle humaine qui vise à répondre aux besoins actuels et aux besoins futurs des aînés.
Mm-hmm.
En fait, l'aménagement du quartier des générations, on peut dire que le projet se fait en deux volets. On retrouve sur un même terrain un continuum de services qui favorise le vieillissement actif des aînés. Alors, on a déjà présentement sur ce même terrain la résidence Berthiaume du Tremblay, qui est un centre d'hébergement qui héberge 198 résidents en perte d'autonomie modérée à sévère. On a déjà un centre de jour qui accueille 200 aînés qui vivent à domicile, qui ont des pertes d'autonomie légères à modérées. Et on a déjà les résidences Roque-Pinard, qui sont des résidences certifiées pour aînés. Donc, c'est 65 logements pour ces aînés-là. Et ce qui est unique, le nouveau concept, c'est que sur ce même terrain, il y aura un nouveau bâtiment. Et sous un même toit, on retrouvera un projet d'habitation de 40 logements pour les aînés autonomes, qu'on va appeler le 1675.
Mm-hmm.
Et sous le même toit, il y aura des locaux qui seront là pour tenir des activités qui visent le vieillissement actif des aînés. Et ces activités-là s'adresseront aux gens, bien sûr, qui habitent le 1675, qui habitent aussi les résidences Roque-Pinard. Mais ce qui est nouveau, ce qui distingue le quartier des générations, c'est que ce sera ouvert aux aînés du quartier Onsic aussi.
Oui. Ce qui distingue l'approche du quartier des générations, Chantal, c'est l'aspect plurigénérationnel. C'est quoi cette approche-là d'une part, mais aussi comment on peut répondre aux besoins de plusieurs générations?
Bien, déjà sur l'ensemble du site, nous, on peut dire qu'on a déjà 5 générations qui se côtoient parce qu'il y a des aînés de plusieurs générations qui y habitent déjà le site. Mais l'approche plurigénérationnelle, c'est une façon de combiner l'énergie des aînés à celle des autres générations pour développer leur vieillissement actif. Les nouveaux retraités d'aujourd'hui, ils veulent pas juste la couler douce, ils voudront être des citoyens à part entière, donc ils veulent qu'on leur offre un milieu de vie qui est stimulant. Je vous donne un exemple d'activité plurigénérationnelle. On a sur le site actuellement des jardins surélevés qui appartiennent à la résidence. Et puis, on y cultive des fines herbes. Alors, les professionnels du centre d'hébergement organisent les activités de jardinage. On invite les enfants du CPE à côté qui viennent apprendre à cultiver les fines herbes. Donc, eux font des apprentissages. Et pendant cet apprentissage-là, bien évidemment, ils font des rencontres avec les personnes âgées sur le site, autant des personnes âgées qui habitent l'hébergement, qui fréquentent le centre de jour et qui vivent dans les résidences Roque-Pinard. Évidemment, une fois que ces fines herbes-là sont cultivées, bien, on a besoin de les entretenir et c'est souvent les aînés et des bénévoles qui fréquentent déjà le site ou qui les bénévoles, ils viennent superviser certains des aînés ici. Mm-hmm. Et puis les locataires des résidences Roque-Pinard viennent arroser les fines herbes, balayer le jardin, voir à ce que tout ça pousse en harmonie. Et ce qu'il y a de beau à la fin, c'est qu'on cultive ces fines herbes-là et qu'ils sont utilisés pour produire l'alimentation et les mets qui sont distribués aux résidents qui sont hébergés ici. Oui. On s'en sert pour aromatiser les mets.
Chantal, lorsqu'on parle de plurigénérationnel, est-ce que ça signifie, bon là, vous avez parlé des enfants du CPE, mais il y a sur votre site des gens de 20, 30, 40, 50 ans aussi?
Oui. En fait, on a plusieurs partenariats avec la communauté. On a des partenariats avec le CPE, comme je vous le disais, mais on a aussi des partenariats avec des écoles. On est près de l'école Mont-Saint-Louis, on est près de l'école Sophie Barra. Alors, on a des jeunes qui sont dans des programmes internationaux qui doivent faire du bénévolat et qui viennent sur le site réaliser divers projets pour stimuler les aînés et briser leur isolement.
Ah, ça, c'est assez chouette, Chantal Bernatchez. Maintenant, je reviens au vieillissement actif. Vous nous avez expliqué en quoi ça consiste. Est-ce que vous avez pu voir, que ce soit chez les personnes aînées, mais aussi chez les jeunes, des bienfaits au point de vue de la santé globale?
C'est sûr que les aînés, ce qu'ils nous disent, leurs besoins pour bien vieillir, ils ont trois sortes de besoins. Mmh. Ils veulent participer socialement. Ils veulent être en santé et puis ils veulent se sentir en sécurité. Alors, c'est sûr que quand on organise des activités qui, dans le fond, sont une bonne excuse pour donner lieu à ces rencontres-là, là, c'est des rencontres entre les différentes générations, quand on fait ces activités-là, bien, on favorise le vieillissement actif puis on contribue à ce que les gens vieillissent à leur plein potentiel.
Oui, et à leur façon, selon leurs besoins et entourés aussi de personnes stimulantes. Vous en êtes où maintenant dans les étapes du quartier des générations?
Bien, écoutez, on a passé l'étape de rêver et de penser le projet. J'ai une primeur pour vous. On est rendu à l'appel d'offres pour construction et ça a été lancé hier. Donc, d'ici un mois, on va pouvoir se mettre à la planification de la construction du projet. Donc, c'est une construction qui va durer un an et l'ouverture du projet est prévue pour la fin de l'été 2018.
Pourquoi le quartier Onsic, Chantal? J'imagine parce que la résidence est déjà présente dans ce quartier-là?
Bien oui, la Fondation Berthiaume-du-Tremblay a plusieurs réalisations qui sont déjà dans Onsic, dont tous les établissements que j'ai déjà nommés.
Oui.
On est ici depuis 1972, donc on est bien implanté dans un site. C'est une communauté qu'on connaît bien et on va continuer nos activités dans ce quartier.
Oui. Est-ce qu'il y a des axes de développement? Bon, là, vous parliez de l'appel d'offres. Quelles sont les autres étapes que vous avez en tête? Là, on comprend que le rêve et l'imaginaire, ça, c'est pas assez. Vous avez semé, vous êtes en train de récolter. Donc, vous en serez où dans votre développement?
Bien, c'est sûr que dans la prochaine année, on a encore du travail à faire. Et puis, on va travailler sur l'élaboration d'une programmation d'activités plurigénérationnelles qui va justement rejoindre les trois axes du projet qui sont la participation sociale, la santé et la sécurité.
Mm-hmm.
On veut d'ailleurs aussi travailler sur l'aménagement de l'ensemble du site extérieur. On a un plan directeur parce qu'on va devoir y installer, par exemple, des modules d'exercice ou des choses qui vont favoriser la santé. Et évidemment, bien, on poursuit notre recherche de partenaires hein, parce que ça ne se fait pas tout seul. Ça nous prend des partenaires qui ont le goût d'offrir leur temps, des partenaires qui ont le goût de faire une contribution monétaire, mais aussi des partenaires qui ont le goût d'offrir des services, qui ont des compétences particulières, qui vont rendre service aux aînés ou contribuer à leur vieillissement actif.
Oui. Maintenant, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont envie d'habiter le quartier des générations, c'est quelque chose de possible?
Oui, tout à fait, c'est possible. J'invite ces gens à visiter notre site Internet au www.quartierdesgenerations.org. Ils peuvent aussi nous suivre sur notre page Facebook.
Mm-hmm.
Si jamais les gens n'ont pas Internet, ils peuvent aussi communiquer au 514-381-1841, le poste 504, pour prendre plus d'informations sur ce beau projet.
Oui, et votre site, Chantal, est très, très bien fait. Je l'ai consulté. J'ai eu beaucoup de facilité à trouver les informations nécessaires, beaucoup de plaisir à parcourir votre site aussi. J'imagine, en terminant, que pour répondre aux besoins de santé, de vieillissement actif des personnes aînées au sein du quartier des générations, il y aura des professionnels de la santé aussi qui seront reliés au projet.
Effectivement, mais ils sont déjà sur le site actuellement. Vous savez, la résidence, c'est un centre d'hébergement de soins de longue durée.
Mm-hmm.
Le centre de jour, c'est plein de professionnels. Alors, aux résidences Roquepinard, on a d'autres types de professionnels pour différents types d'aînés. Alors, c'est sûr qu'on va mettre à contribution toutes les capacités de ce beau personnel-là.
Oui, pour répondre aux besoins des personnes aînées.
Tout à fait.
Quartierdesgenerations.org, Chantal Bernatchez, vous êtes directrice générale de la résidence Berthiaume du Tremblay, également de ce projet très innovateur du Quartier des Générations. Merci de nous l'avoir fait découvrir aujourd'hui.
Ça me fait plaisir de partager ma passion avec vous.
Au revoir, merci.
Merci.
Dernier segment de cette émission où je vous partage un coup de cœur. Aujourd'hui, un coup de cœur pour une personne. C'est le docteur Stanley Volant. Vous l'avez peut-être vu, à Tout le monde en parle, le dimanche dernier. Un homme généreux, un homme de cœur qui marque les gens. J'ai déjà pu faire une entrevue avec lui. Je l'ai rencontré tout récemment. On a discuté ensemble. C'est quelqu'un qui fait de grandes choses, notamment pour les jeunes autochtones, sensibilisation aux saines habitudes de vie et aussi parce que Stanley Volant a une histoire familiale, disons, assez unique, assez marquante et également bien, une histoire de vie. Il faut rappeler que c'est le premier chirurgien autochtone du Québec. Bien, il marque un petit peu l'imaginaire et c'est pourquoi il a créé ce documentaire Stanley Volant de Compostelle à Cujuaque. C'est une mini-série de 2 épisodes. On suit le docteur Volant dans ce projet très innovateur, très ambitieux, mobilisateur aussi, je dirais, Innu Meshkenu, où il parcourt 6000 kilomètres qui le mènera en 5 ans là, à travers différentes communautés autochtones du Québec, de l'Ontario et du Labrador. Et tout ça, comme je le disais tout à l'heure, afin de sensibiliser les jeunes autochtones aux saines habitudes de vie et de montrer, c'est ce que je voulais dire en fait tout à l'heure par une personne qui frappe l'imaginaire, Stanley Volant, c'est que son parcours est inspirant pour les jeunes autochtones. Lui, ce qu'il a envie de dire, c'est si moi j'ai réussi à le faire, vous aussi, vous êtes capable, peut-être encore mieux que moi. Il suffit d'avoir un rêve et d'y croire. Il encourage d'ailleurs les jeunes autochtones qu'il rencontre à travers ce périple-là de 6000 kilomètres à manifester leur rêve, à le communiquer et bien sûr à aller de l'avant. Donc, pour voir ce documentaire, cette mini-série Stanley Volant de Compostelle à Coudjouac, c'est sur les ondes de Radio-Canada, 22 et 29 avril à 21h, partout au pays. Ici Radio-Canada Télé, c'est sur la télé. Aussi, un petit peu plus tard, en juin, vous pourrez voir cette mini-série et c'est possible de le voir sur radiocanada.ca/StanleyVolant. Deux épisodes, comme je vous le disais. Le premier, davantage axé sur les défis physiques et psychologiques de ce parcours-là, de 6000 kilomètres à pied, je le rappelle. Et deuxième épisode, peut-être plus sur un volet symbolique, donc le petit gars qui vient d'une communauté autochtone, qui s'est épanoui, qui a évolué, qui a rencontré aussi des obstacles, qui a pu franchir ces obstacles-là. Et on le rencontre, Stanley Volant, dans des conditions hivernales aussi très, très complexes. Donc, c'est davantage le sujet ou les sujets du deuxième épisode. Pourquoi de Compostelle? Bien, c'est lors d'une marche à Compostelle en France que Stanley Volant a eu cette révélation ou cette mission de vie d'aller à la rencontre des jeunes autochtones et ça a fait ce documentaire de Compostelle à Coudjouac. Voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de C'est bon pour la santé. Je remercie les différents intervenants, Chantal Bernacci, Dr. Langis Michaud, Marie-France Lalancette et Jean-Marie Lapointe. C'est Jean-Sébastien Laliberté à la console. Merci mon cher. Christiane Campagna à la revue de presse et également au web et aux médias sociaux. Marianne Paquette au micro. On se redonne rendez-vous, nous, la semaine prochaine. Soyez bien en forme pour cette autre édition de C'est bon pour la santé. Bye-bye tout le monde!